Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, chef de file du Parti communiste aux élections européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Yann Brossa, un compromis a été trouvé dans la nuit par les pays de l'Union européenne sur l'accueil des migrants. Il prévoit la création dans des pays volontaires de centres pour migrants où seront étudiées les demandes d'asile, mais aussi des plateformes de débarquement en dehors de l'Union européenne. Est-ce que ce compromis salué par l'Italie règle la crise des migrants ?
Je ne pense pas que ce compromis règle quoi que ce soit. Je pense d'ailleurs que le terme de compromis est lui-même questionnable. La réalité, c'est que dans cette affaire, la France s'est quasiment alignée sur les positions de Salvini et de l'extrême droite italienne, puisque l'essentiel de cet accord porte sur le renforcement des frontières et vise à éviter que des demandeurs d'asile n'arrivent en Europe. Et donc je pense que tout cela ne réglera rien. Je pense que l'Europe perd son âme dans cette affaire parce qu'elle ne se montre pas capable d'ouvrir les bras à des hommes et des femmes qui cherchent l'asile chez nous. Et je pense que nous devrions plutôt consacrer notre énergie à assurer un hébergement digne à ces hommes et à ces femmes-là.
L'Europe peut accueillir tous les migrants qui souhaitent arriver sur nos côtes ?
Je pense en tout cas que l'Europe doit prendre sa part et qu'aujourd'hui, l'Europe ne prend pas sa part. La France ne prend pas sa part. Nous avons depuis maintenant trop d'années laissé les pays de l'Europe du Sud gérer cette situation seule. La France n'a pas pris sa part et d'une certaine manière, nous en payons le prix aujourd'hui parce que l'extrême droite explose un peu partout en Europe, dans le Sud, dans l'Est, y compris dans notre propre pays. Et nous devrions, au contraire, nous donner les moyens d'assurer un hébergement digne. Vous savez, depuis maintenant le début des années 2000, les pays de l'Union européenne ont consacré 15 milliards d'euros au renforcement de nos frontières. 15 milliards d'euros. Ça a d'abord été totalement inefficace parce que quand des gens fuient la mort, veulent éviter la mort, en réalité, elles finissent par trouver les moyens d'entrer sur le territoire européen. C'est donc un investissement de 15 milliards d'euros à pure perte. Et puis surtout, nous aurions pu consacrer ces milliards d'euros à assurer de l'hébergement digne avec des centres humanitaires comme nous en avons d'ailleurs créé à Paris. Et je regrette qu'aujourd'hui, l'Europe perde son sens, renie ses valeurs en n'assurant pas cet hébergement.
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, propose d'en finir avec le règlement de Dublin. Il réclame également un droit d'asile européen, des quotas pour les migrants économiques, une grande conférence internationale à l'initiative de la France sur les migrations. Vous êtes d'accord avec cette proposition ?
Bon, je regrette en tout cas que les socialistes n'aient pas porté ça du temps où François Hollande était président de la République. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'il faut changer de braquet en matière de politique migratoire. Parce que, une fois de plus, l'Europe aujourd'hui ne se montre pas capable d'assurer un hébergement digne. Donc oui, moi je suis favorable à une clé de répartition à l'échelle européenne qui permette d'accueillir dans un juste équilibre de nos territoires, les réfugiés qui frappent à notre porte et qui cherchent asile chez nous. Après tout, quand même, l'Union européenne, quand elle veut imposer un certain nombre de choses, elle y arrive, notamment en matière de politique d'austérité. Donc je préférerais que l'énergie qu'elle consacre à imposer des politiques d'austérité, elle le consacre à permettre un hébergement digne pour ces réfugiés.
Quand vous voyez, Yann Brossa, le poids que prennent les gouvernements dirigés par des populistes en Europe, je pense bien sûr à l'Italie, à la Hongrie, à d'autres pays, est-ce que ça n'est pas toute l'Europe qui risque de céder aux sirènes de l'extrême droite ?
Si, peut-être. La réalité, en tout cas, c'est que nous payons le prix de politiques libérales qui ont été menées depuis maintenant des décennies au nom de l'Union européenne. Et ces politiques libérales-là, qui font suite au traité de Maastricht, qui font suite à une construction européenne qui n'a visé qu'à diminuer la dépense publique et conduire aux conséquences qu'on connaît en matière de destruction du service public, tout cela fait que les Européens sont aujourd'hui dégoûtés de l'Europe. Les libéraux ont fini par dégoûter les Européens de l'Europe. Et donc, faute de trouver une alternative à gauche, ils se jettent aujourd'hui dans les bras de l'extrême droite. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'Europe se meurt. où l'Union européenne est aujourd'hui dans un état de délitement pathétique. Le spectacle auquel nous avons assisté avec l'affaire de l'Aquarius, où les pays ont joué au ping-pong avec les vies de 629 migrants, tout ça est pathétique. Et donc l'Europe est en train de mourir sous nos yeux. Et le seul moyen de se sortir de cette situation-là, c'est de redonner du sens à l'Europe et de montrer que l'Europe peut être autre chose qu'une machine à provoquer de la régression sociale.
Quand vous dites que l'Europe est en train de mourir ou risque de mourir, on se souvient que la construction européenne s'est faite après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que il faut s'inquiéter véritablement des conséquences d'une destruction de l'Europe ?
Oui, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont pour ambition de mettre le dernier clou dans le cercueil. Je pense que ce qui est terrible, c'est que en ce moment, nous assistons au délitement de l'Europe, alors même que nous aurions plus que jamais besoin d'une construction européenne. On le voit bien sur la question des migrants, personne ne peut imaginer que nous réglerons ce problème à la seule échelle d'un pays. Nous avons besoin de coopération à l'échelle de l'Europe. De la même manière, face aux provocations de Donald Trump, on sent bien qu'on aurait besoin d'une Union européenne qui porte autre chose que le libre-échange. Bon. Donc on aurait besoin de s'organiser à l'échelle européenne. Le problème, c'est que ça ne peut pas se faire sur des bases libérales, parce que le libéralisme a fini par dégoûter les citoyens européens de l'Europe. Donc je crois que la question d'une autre Europe, d'une autre construction européenne, d'une construction européenne qui porte la justice sociale, qui porte l'harmonisation sociale, qui porte l'harmonisation fiscale, ça reste à construire, mais en tout cas c'est une belle ambition et on en aurait besoin aujourd'hui.
Yann Brossa, pour quelles raisons avez-vous souhaité être candidat aux élections européennes et diriger la liste du Parti communiste ?
Pour deux raisons. La première, c'est que je ne me fais pas à la situation de la gauche aujourd'hui. La gauche a perdu les élections, elle n'a même pas été au second tour de l'élection présidentielle il y a un an. Et ce que je constate, à regret, c'est que la gauche va encore plus mal aujourd'hui qu'il y a un an. Et donc je ne me fais pas à l'idée que la gauche soit rayée de la carte. Il y a encore des gens qui portent des valeurs de gauche dans ce pays, des gens qui sont attachés à la justice sociale, des gens qui ne supportent pas les inégalités sociales qu'il y a dans notre pays, il faut bien qu'ils soient représentés par la gauche. Et donc, il y a besoin de renouveau à gauche. Et moi, ce que je souhaite porter dans cette campagne, c'est ce renouveau à gauche dont on a impérieusement besoin. Et puis, par ailleurs, c'est un autre élément qui est entré en ligne de compte dans ma réflexion. J'ai constaté comme élu parisien, comme élu local, que si on a envie de changer un certain nombre de choses à l'échelle locale, il faut aussi être capable d'agir à un échelon qui est l'échelon européen. Je pourrais évidemment vous donner quelques exemples, mais en tout cas, si on a envie que ça change dans nos villes, dans nos vies, il faut aussi que ça change à l'échelle européenne.
Vous voulez nous dire, Yann Brossa, que certaines décisions que vous souhaitez prendre à Paris ne sont pas possibles parce que l'Union européenne vous en empêche ?
Je vais vous donner un exemple. On en a parlé tout à l'heure, la question des réfugiés. C'est une question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui à Paris comme dans beaucoup d'autres grandes villes. On a régulièrement, selon la fréquence des opérations de mise à l'abri, des centaines de réfugiés qui dorment dehors faute d'hébergement. Nous savons bien que ce sujet-là, il ne se réglera pas à la seule échelle de Paris, il ne se réglera même pas à la seule échelle de la France. On a besoin d'un levier européen pour régler un problème comme celui-là, définir, comme je le disais tout à l'heure, des quotas, enfin en tout cas une clé de répartition à l'échelle de l'Union européenne. On a besoin de s'organiser à l'échelle européenne pour régler ce problème. Je vais vous donner un autre exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué. Depuis quelques années maintenant, nous sommes confrontés à Paris à un développement énorme des locations touristiques, ce qu'on appelle les locations de type Airbnb. Nous avons perdu depuis 5 ans 20 000 logements qui ont été transformés en meublés touristiques, dans une ville qui en plus manque considérablement de logements, ce qui nous pose de très nombreux problèmes. Nous avons cherché à réguler ce phénomène. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une chose très simple, c'est que Airbnb va devant la Commission européenne pour casser les réglementations que nous avons prises à l'échelle locale, parce que la Commission européenne est acquise à la cause libérale et considère qu'il ne faut surtout pas de régulation dans l'économie. Donc on a un exemple très concret qui montre que aujourd'hui, l'Union européenne, la Commission européenne peut bloquer un certain nombre de décisions prises à l'échelle locale. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Paris qui est concerné. Barcelone, Madrid, Amsterdam, Berlin sont exactement confrontés au même problème et cherchent aussi à y remédier.
Donc vous retrouverez au Parlement européen vos amis, entre guillemets, d'Airbnb.
Exactement. En tout cas, moi, je ne suis pas du genre à lâcher les combats en changeant de responsabilité. Donc, bien sûr, je continuerai à mener ce combat à l'échelle européenne parce qu'il en va de l'avenir de nos villes, de la capacité de nos villes à maintenir les classes moyennes en leur sein et aussi de la capacité que nous avons à réguler cette nouvelle économie.
Yann Brossa, vous êtes un Européen convaincu, même si vous dénoncez le tour libéral qu'a pris l'Union européenne ces dernières années ?
Moi, je suis né avec l'Europe, je suis né en 1980, j'ai 38 ans maintenant, et l'Europe est une évidence pour moi. Il n'en reste pas moins que l'Europe telle qu'elle s'est construite, acquise aux thèses libérales, ne peut nous conduire que dans le mur. Et d'ailleurs, je suis convaincu que si nous voulons sauver l'Europe aujourd'hui, il faut lui donner une dimension sociale, il faut lui donner une dimension de solidarité, autant d'éléments que l'Union européenne n'a pas porté au cours des dernières décennies, depuis sa création en réalité. Donc il y a du travail, mais je pense que c'est un défi absolument passionnant.
Le Parti communiste a toujours eu des députés européens. Je pense par exemple à Francis Wurtz, qui a longtemps siégé au Parlement. Je pense aussi à Patrick Le Yarrick, qu'on connaît bien à Radio Orient également. Quelle action a mené le PCF au Parlement européen ces dernières années ?
Le Parti communiste a eu un rôle très important au Parlement européen. Vous avez d'ailleurs raison de parler de Francis Wurtz. Francis Wurtz sera d'ailleurs mon directeur de campagne. C'est un fin connaisseur des enjeux européen. Le Parti communiste a eu, je pense, d'abord un rôle de lanceur d'alerte au sein du Parlement européen. Le Parlement européen est une institution qui est souvent considérée comme assez opaque. Les Français savent peu ce qui se passe au Parlement européen, et les communistes ont eu un rôle très important parce qu'ils ont eu cette capacité à révéler ce qui parfois se tramait de manière un peu discrète, voire un peu secrète au Parlement européen. Je vais vous donner un exemple.
Les accords commerciaux, par exemple.
Les accords commerciaux, mais je vais vous donner un exemple plus récent. Il y a eu récemment une discussion au Parlement européen, lors de la dernière session du Parlement européen, sur une directive relative au travail des routiers. Les routiers, c'est 3 millions de salariés au sein de l'Union européenne. Cette directive est extrêmement néfaste parce qu'elle va dégrader les conditions de travail des routiers qui ont déjà des conditions de travail particulièrement difficiles. Elle va notamment réduire leurs congés, enfin les espacer encore davantage, ce qui empêchera les routiers de voir leur famille de manière un peu fréquente. Eh bien, les communistes ont alerté sur cette situation, notamment l'une de nos députées européennes, Marie-Pierre Vieux, et nous avons obtenu une majorité au Parlement européen pour remettre ce sujet à la discussion le mois prochain, et ce sera discuté le 2 juillet, lundi prochain, avec des amendements qui permettront de modifier la donne. Donc les communistes ont eu un rôle très important, parce qu'ils sont convaincus depuis maintenant des années que l'Union européenne doit se transformer en profondeur. On ne peut pas vivre dans une Union européenne où les Polonais font concurrence aux Français, qui font concurrence à je ne sais qui. Ça n'est pas comme cela qu'il faut concevoir l'Union européenne. Si on se met ensemble, c'est pour coopérer, pas pour se tirer dans les pattes.
Yann Brossa, le Parti communiste fera-t-il des alliances lors de ces élections européennes ?
Nous le verrons. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y a besoin de se rassembler. La gauche est aujourd'hui trop éparpillée. Elle est éparpillée façon puzzle. Et si on a envie que la gauche retrouve un peu de force et de vitalité dans notre pays, il faut qu'elle soit capable de se rassembler. C'est la raison pour laquelle nous, les communistes, tendons la main à toutes les autres forces politiques de gauche qui, comme nous, partagent l'idée qu'on a besoin d'une autre Europe. Et donc, moi, je suis partisan d'alliance.
Toute la gauche, c'est-à-dire Génération de Benoît Hamon, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, la France Insoumise.
Je disais, tous les partis politiques de gauche qui portent comme nous la nécessité d'une autre Europe, ça n'est pas le cas de tout le monde. Le Parti Socialiste a toujours défendu l'Europe telle qu'elle est. Le Parti Socialiste a défendu le traité de Maastricht, il a défendu le traité constitutionnel européen, du moins dans sa majorité. Donc en l'occurrence, une alliance avec le Parti Socialiste me paraîtrait compliquée. En revanche, avec Génération notamment, nous avons des discussions et je souhaite qu'elles puissent porter leurs fruits.
Avec la France Insoumise, vous allez aux élections séparément ?
Moi, je serais toujours favorable à se rassembler. Nous tendons la main aussi à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il reste que Jean-Luc Mélenchon a décidé de toute façon de
il
constituer...
Il ne vous apprécie pas beaucoup, hein, la France Insoumise.
En tout cas, ils ont décidé de constituer une liste qui est déjà complète. Ils ont déjà plus de 70 noms sur une liste qui doit en conduire 79. Donc, manifestement, il y a une volonté de leur part de partir seul. Il y a par ailleurs un débat de fond.
Il vous reproche aussi de vous être allié à Anne Hidalgo lors des dernières municipales.
Sans doute. La réalité, c'est que cette union nous a quand même permis de faire un peu plus de 7000 logements sociaux chaque année dans la capitale, de développer un certain nombre de choses en direction des personnes sans abri. Donc moi, je veux bien toutes les leçons du monde, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir fait des choses utiles. Et moi, je fais de la politique pour être utile, pas uniquement pour parler. Mais surtout, il y a aussi une vraie discussion de fond avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en réalité, est favorable à une sortie de l'Union européenne. Il le dit d'ailleurs dans le cadre de ce qu'il appelle un plan B. Moi, je ne suis pas favorable à une sortie.
Le plan B, c'est le Frexit.
Exactement. Moi, je ne suis pas favorable à ce que la France quitte l'Union européenne, pas favorable non plus à ce que nous renoncions à l'euro. Et donc, je pense que il faut se battre au sein de l'Union européenne. Mais vous savez, j'entends bien cette petite musique qui consiste à dire « Ah, c'est dur de mener des combats au sein de l'Union européenne, donc il faudrait quitter l'Union européenne. » Mais attendez, mener une politique progressiste, mener une politique de gauche à l'échelle de la France, c'est compliqué. Aussi, mener une politique de gauche à l'échelle d'une ville comme la mienne, Paris, c'est compliqué. Et bien, pour autant, on se bat. Eh bien, il faut se battre à l'échelle de l'Union européenne et nous avons des alliés pour ça.
Yann Brossat, est-ce que le Parlement européen a un vrai pouvoir sur les orientations de l'Europe? J'ai plutôt l'impression que ce sont les États et la Commission qui impriment leur marque.
Nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière parce que quand on regarde les choses dans le détail, on s'aperçoit que la France, par exemple, prend ce qu'il y a de pire dans l'Union européenne et jamais ce qu'il y a de meilleur. Deux exemples. La privatisation, puisqu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, la mise en concurrence de la SNCF, c'est effectivement quelque chose qui s'appuie sur une décision du Parlement européen et de la Commission européenne, dans le droit fil d'ailleurs des traités européens. La France s'est précipitée pour prendre cette mesure et nous allons de fait assister à une privatisation de la SNCF avec toutes les conséquences qu'on peut d'ores et déjà prévoir. En revanche, le Parlement européen a voté, par exemple, une très bonne décision qui concerne l'allongement du congé parental. Et la Commission européenne était sur la même ligne. Là, curieusement, la France a mis son veto et refuse l'allongement du congé parental. Et comment vous voulez que dans un contexte comme celui-là, les gens apprécient l'Europe ? Puisqu'on en prend ce qu'il y a de pire et on prend jamais les décisions de l'Union européenne dès lors qu'elles nous tirent vers le haut.
Yann Brossat, vous disiez tout à l'heure que l'Union européenne apparaissait un peu comme quelque chose d'opaque aux Français. Et c'est vrai qu'on ne parle de l'Union européenne et des travaux du Parlement européen qu'au moment des élections. Vous qui êtes un champion de la communication, vous exprimez dans les médias, est-ce que vous engagez, si vous êtes élu, à vraiment faire connaître les décisions du Parlement européen, le travail des députés ?
En tout cas, je pense que c'est fondamental parce que les décisions de l'Union européenne, de fait, impactent notre vie quotidienne dans plein de domaines. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de combats que j'ai menés à Paris et je pense donc qu'on a besoin de députés lanceurs d'alerte, de députés qui passent beaucoup de temps à raconter ce qu'ils font, à raconter ce qu'ils voient, parce qu'il faut effectivement en finir avec cette forme d'opacité qui fait que un certain nombre de décisions prises par le Parlement européen, prises par la Commission européenne, passe souvent entre les mailles du filet. Et d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs réussissent, eux, à se faire entendre au sein de l'Union européenne. Ce sont notamment les lobbies. Les lobbies ont pris une part extrêmement importante au sein de l'Union européenne. Je vous parlais tout à l'heure du combat que je mène sur Airbnb. Airbnb dispose d'un lobby qui est présent au travers de 3 salariés qui sont en permanence à Bruxelles, qui susurrent matin, midi et soir aux oreilles de la Commission européenne. Ce qui fait qu'au final, la Commission européenne prend systématiquement des décisions favorables à ces grandes entreprises au détriment des habitants de nos villes. Donc je pense qu'il faut contrer ce travail des lobbies par un vrai travail qui soit un travail visible et connu des Français. C'est ce que je vais essayer de faire.
Une Europe sociale et solidaire, ça vous paraît possible malgré tout, compte tenu des traités qui ont un peu verrouillé l'Union européenne? C'est très difficile de changer les institutions aujourd'hui.
C'est évidemment compliqué.
Et par ailleurs, ce que dit François Asselineau. Il dit que, à part lui, tous ceux qui se présentent aux élections européennes, de toute façon, ne changeront rien.
Il faut aussi, alors j'irai évidemment pas jusque-là. Je pense qu'il y a un double écueil. Il ne faut pas faire croire que le Parlement européen ou que, en tout cas, quelques parlementaires européens puissent à eux seuls changer fondamentalement le cours des choses. Il ne faut pas faire croire non plus que le Parlement européen ne sert à rien. Je vous ai évoqué tout à l'heure la question de la directive sur les routiers. De fait, le travail des parlementaires européens, le travail des députés européens, d'un certain nombre d'entre eux en tout cas, a permis de mettre au jour cette situation. Ça a permis aussi aux salariés concernés de se mobiliser et au final il s'est dégagé une majorité au sein du Parlement européen pour revenir sur des dispositions socialement néfastes. Donc je ne pense pas que nous soyons confrontés à une forme de camisole de force dont nous ne pourrions pas nous débarrasser. D'abord, il faut évidemment mener le combat pour le changement des traités, mais même dans le cadre des traités actuels, nous pourrions faire un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple concret. Depuis maintenant 10 ans, la Banque Centrale Européenne a versé 3 000 milliards d'euros aux banques sans aucune espèce de contrepartie. C'est notre argent, c'est l'argent des auditeurs qui nous écoutent. Et cet argent-là, ces 3 000 milliards d'euros, on l'a donné à des banques qui, aujourd'hui, vous imposent des agios dès lors que vous avez 3 euros de déficit sur votre compte. Donc je pense qu'un exemple très concret, nous pourrions imaginer qu'une part de cet argent aille dans un fonds dédié au développement des services publics en Europe. Ça n'est pas contradictoire avec les traités, et même les traités actuels nous permettraient d'alimenter un tel fonds pour le développement de nos services publics. Et à ce moment-là, on s'apercevrait que l'Europe ne peut être autre chose qu'une machine à dégrader nos services publics. Elle nous permettrait au contraire de nous tirer vers le haut. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de combats à mener et qu'en tout cas, on ne gagne que les combats qu'on mène.
L'invité de Pluriel est Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Vous êtes également chef de file du Parti communiste aux élections européennes. On se retrouve dans quelques instants. Animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, chef de file du Parti communiste aux élections européennes. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la réforme ferroviaire et après 2 mois de grève à la SNCF, finalement, on voit que cela n'a pas infléchi la position d'Emmanuel Macron, puisqu'il a promulgué sa réforme ferroviaire cette semaine. Est-ce que la gauche et les syndicats doivent trouver d'autres formes d'action pour que le président de la République réoriente sa politique ?
Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes confrontés à un mur et à un gouvernement qui a décidé, à la manière de Margaret Thatcher, d'imposer, quoi qu'il en coûte, ses réformes, y compris lorsqu'il fait face à des oppositions très importantes, évidemment les grèves, les manifestations. Et donc au final, le gouvernement va effectivement très vite et très loin sans se préoccuper de ses résistances. Ma conviction, c'est que ça ne pourra pas tenir très longtemps et que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement finira par payer et sa méthode et le fond de sa politique. Je souhaite d'ailleurs que tout cela puisse se traduire par un échec cuisant pour La République En Marche dès les prochaines élections européennes, qui seront quand même les premières élections depuis la dernière élection présidentielle.
C'est quoi la politique d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il veut ? Quel est son projet, selon vous ?
Oh, je crois que le projet se fait jour de manière de plus en plus nette. C'est un projet tout pour les riches. La politique du gouvernement est une politique qui a une boussole, c'est de tout faire pour permettre aux plus riches de l'être encore davantage et en revanche de casser tout ce qui fait la singularité du modèle social français. Il casse les HLM, il casse le service public et le premier d'entre eux sans doute la SNCF. Il va bientôt s'attaquer aux retraites par répartition, il s'attaque à l'hôpital public. J'ai encore vu que les hôpitaux parisiens vont souffrir de 40 millions d'euros d'économies supplémentaires dans les années qui viennent. Bref, c'est une politique qui est une politique et de droite et en même temps de droite.
Vous reprenez à votre compte les propos de Jean-Louis Borloo qui a qualifié la politique d'Emmanuel Macron de dangereuse et d'inefficace.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis Borloo. Pourtant, il n'est pas du même camp politique que moi. Mais je constate que, y compris des gens de droite, mais qui ont une fibre sociale, ce qui est le cas de Jean-Louis Borloo, finissent par voir les travers de cette politique d'Emmanuel Macron. Donc je pense effectivement que c'est une politique non seulement très injuste socialement, mais qui ne fait pas non plus la preuve de son efficacité. Donc je pense effectivement que cette politique nous mène droit dans le mur et fait mal à la France. Parce que on l'oublie quand même, mais ce qui fait l'identité de notre pays, ce qui fait l'identité de la France, c'est aussi une forme de solidarité. C'est aussi les services publics, c'est la sécurité sociale. C'est ce qui fait aussi que partout à travers le monde, on regarde la France comme un pays avancé, plus avancé que les autres. C'est parce que nous avons été capables de construire ces outils de solidarité. Et c'est tout ce que Emmanuel Macron essaye de briser en ce moment.
On se souvient que François Hollande avait été confronté à des frondeurs au sein de sa propre majorité. Vous sentez chez La République En Marche un début de révolte, puisqu'on voit que certains députés quand même ont exprimé des doutes sérieux sur sa politique migratoire notamment.
Soyons honnêtes, c'est un parti qui est quand même très caporalisé et un parti plus présidentialiste que jamais et qui repose beaucoup sur l'autorité de ses chefs et en l'occurrence le premier d'entre eux, Emmanuel Macron. Cela dit, je note effectivement que même dans ce parti très caporalisé, la politique du gouvernement en matière d'immigration finit par provoquer la colère d'un certain nombre d'élus de La République En Marche. C'est vrai que entre une ministre qui parle de shopping de l'asile, un ministre de l'Intérieur qui parle de benchmarking des migrants et le lendemain de submersion migratoire, il y a quoi avoir quelques doutes parce que ce sont des propos qui viennent tout droit du lexique de la famille Le Pen.
Comment vous l'expliquez que ce lexique, justement, ait contaminé un parti comme La République En Marche ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une opinion publique française qui est atteinte d'une forme d'anesthésie de la sensibilité sur ce sujet. On oublie, quand on parle des réfugiés, qu'on n'a pas affaire qu'à des stocks ou à des flux. On a affaire à des humains, des parcours, des vies, des visages, des gens qui ont des choses à raconter et qu'on entend finalement trop peu parce qu'on se replie derrière des chiffres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a une lâcheté terrible de la classe politique qui vit dans la hantise du Front National et qui, du même coup, n'avance même plus ses arguments et laisse, au fond, l'extrême droite avancer ses arguments. Parfois, elle n'a même pas besoin de le faire et surtout ne réplique pas. Et je pense que c'est dramatique et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, dans cette campagne, il sera beaucoup question des réfugiés, il sera beaucoup question des migrants. La solution de facilité consisterait soit à essayer de se faire discret sur le sujet, soit à emprunter un discours mi-chèvre, mi-chou. Moi, j'assumerais. Et je pense que la grandeur de notre pays, la grandeur de l'Union européenne, c'est de porter un message qui est un message d'accueil digne. Et donc, moi, je le dirais dans cette campagne. On va sans doute m'expliquer que électoralement c'est compliqué, eh bien moi je le dirais.
Quand vous dites que les Français sont victimes d'une anesthésie de la sensibilité, vous êtes en train finalement de vous mettre à dos une grande partie de l'opinion publique. Le courage politique, c'est de dire à la majorité qu'elle peut se tromper ?
D'abord, je disais les Français, j'ai généralisé, il faut pas le faire. Il y a aussi beaucoup de Français qui, je le vois dans ma ville, dans nos quartiers, y compris dans des quartiers très populaires, se mobilisent, ouvrent leurs portes, font œuvre de solidarité, et tant mieux. Et il y a aussi des associations formidables qui d'ailleurs se font insulter par le président de la République. Il a dit que les organisations non gouvernementales du type SOS Méditerranée sont complices des passeurs. Donc non, il y a aussi heureusement beaucoup de gens qui relèvent la tête et ne se laissent pas influencer par cette propagande terrifiante. Cela dit, oui, de temps en temps, quand on est responsable politique, il faut avoir le courage d'aller contre l'opinion majoritaire. Et par ailleurs, quand on est responsable politique, quand on a des idées, quand on a des convictions, on ne les cache pas sous prétexte que ces opinions-là ne sont pas majoritaires. Parce que quand on avance un certain nombre d'idées, quand on avance un certain nombre d'arguments, on fait aussi évoluer l'opinion publique. Parce que si les responsables politiques ne sont là que pour répéter ce que pense la majorité des gens, ils ne servent strictement à rien. Donc je ne dis pas que j'ai raison et que les autres ont tort. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que j'ai des convictions et je vais faire en sorte de les faire partagé par d'autres.
Vous êtes inquiet de voir Laurent Wauquiez se rapprocher, en tout cas c'est ce que disent les commentateurs, du Front National, en tout cas d'une partie du Front National, puisque certains imaginent une alliance entre Marion Maréchal et les Républicains version Laurent Wauquiez.
De fait, Wauquiez et Le Pen sont les Dupont et Dupont de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on aurait bien du mal, si on n'entendait pas la voix de l'un et de l'autre, à distinguer le discours d'un Laurent Wauquiez du discours d'une Marine Le Pen ou a fortiori de Marion Maréchal Le Pen. Donc oui, je pense que c'est une dérive inquiétante, une dérive qui n'est pas nouvelle, qui date d'un certain nombre d'années. Nicolas Sarkozy avait déjà ouvert la voie d'une certaine manière à ce rapprochement, en tout cas idéologiquement. Il avait travaillé les têtes, hein, tel rapprochement, là où au contraire, Chirac, du temps où il était président de la République, malgré un certain nombre de propos malheureux, avait quand même mis une forme de digue entre l'extrême droite et la droite républicaine. Tout cela est en train de sauter et tout cela est effectivement très inquiétant. Ça nous renvoie aussi, nous, la gauche, à nos propres responsabilités parce que si Emmanuel Macron est en difficulté, et je pense qu'il sera en difficulté dans les années qui viennent, parce qu'il n'y a quand même pas une majorité dans notre pays pour approuver des mesures à ce point favorables aux plus riches. Il ne faudrait pas que l'alternance profite à la droite et l'extrême droite réunie. Et donc il faut que nous, la gauche, nous soyons capables de relever le drapeau et de proposer une alternative crédible.
Yann Brossa, à la veille de la Gay Pride, on voit que l'homophobie reste très présente en France. Un jeune gay de Gennevilliers, soutenu par la mairie, a été agressé à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui rejettent un fils ou une fille homosexuelle, parfois au nom de principes religieux ?
Je leur dis d'y réfléchir à deux fois parce que un enfant c'est un enfant et il est évidemment irremplaçable. Cela dit, je constate comme vous la prégnance de l'homophobie. À Paris, vous savez que nous avons décidé dans le cadre de la Gay Pride de faire des passages piétons arc-en-ciel dans le Marais, pas très loin de l'Hôtel de Ville, et à plusieurs reprises, ils ont été tagués. Donc bien sûr, cette homophobie existe. Cela dit, bon, moi j'ai fait mon coming out il y a quelques années maintenant, dans le cadre de mon mandat d'élu. Je suis élu du 18e, élu de la Goutte d'Or. Les habitants n'ont jamais eu de problème avec ça. Et j'entretiens les meilleures relations du monde avec des habitants qui sont très croyants et qui ne voient pas dans l'homosexualité de tel ou tel élu un problème. Et donc je pense qu'il y a quand même dans le fond du pays, dans les tréfonds du pays, quelque chose qui va dans le bon sens et que la tolérance gagne des points. Et d'une certaine manière, l'agressivité d'une petite minorité, d'une minorité active, d'une minorité dangereuse, d'une minorité violente, cette agressivité-là, elle est inversement proportionnelle à ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que globalement, la tolérance augmente. Et en réalité, une petite minorité résiste à cette évolution de l'opinion publique qui va dans le bon sens.
Les ressorts de l'homophobie sont-ils les mêmes que le racisme ?
Je pense que oui. Enfin, en tout cas, il y a dans les deux cas une forme de rejet de l'autre, une recherche de bouc émissaire. Et moi, je souhaiterais d'ailleurs que tout ça conduise à une forme de front de tous ceux qui militent pour l'égalité, qui ne veulent ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni l'homophobie, ni toutes ces plaies qui pourrissent notre société.
Yann Brossa, cette semaine, on a appris que 10 militants de l'ultra-droite voulaient commettre des attaques, des attentats contre des imams radicaux, des détenus islamistes sortis de prison, mais aussi des femmes voilées choisies au hasard dans la rue. Ils ont été mis en examen. Il y a eu très peu de condamnations de responsables politiques. Je voudrais savoir ce que ça vous inspire, cette affaire.
Non, mais vous avez raison d'en parler. Je trouve d'ailleurs que on a évoqué ce sujet sans utiliser un terme qui est pourtant un terme évident. On a affaire à des terroristes. Ces gens-là sont des apprentis terroristes et il faut qu'ils finissent par être condamnés pour cela. Ce sont des gens qui voulaient agresser des femmes voilées dans la rue simplement parce qu'elles sont voilées, qui voulaient sans doute les tuer. Et donc je pense que tout cela nécessite une condamnation extrêmement forte et en tout cas il faut faire preuve d'une tolérance zéro vis-à-vis de cette ultra-droite dangereuse, violente, extrémiste, radicale, qui doit donc être sévèrement condamnée.
Vous vous inquiétez de la résurgence de la violence politique en France ? Il y a cette violence de l'ultra-droite, on entend parler aussi de violence de véganes extrémistes, sans parler de la violence des réseaux sociaux. Ça vous inquiète ? Vous, j'imagine, en tant qu'élu, vous êtes confronté parfois aussi à des attaques violentes contre vous-même.
Ça m'est arrivé surtout en parole. Et heureusement, j'ai d'ailleurs traîné en justice un site internet Riposte Laïque qui avait multiplié des attaques antisémites et homophobes contre moi. Donc oui, bien sûr que cela m'inquiète sur fond de crise de la politique. Un certain nombre de gens se réfugient dans des positions extrême, donc il faut aussi, là aussi, c'est notre propre responsabilité qui est posée. Si la politique faisait un peu plus rêver et donnait un peu plus de sens au combat, il y aurait moins de gens qui entreraient dans ces logiques-là.
Yann Brossa, vous êtes en charge du logement à Paris. La droite vous accuse régulièrement de faire acheter par la ville des appartements à prix d'or pour y faire du logement social. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique et quel bilan faites-vous de votre action en tant qu'adjoint chargé du logement ?
Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui à Paris, il y a 21% de logements sociaux. Il y a 18 ans, à Paris, il y avait 13% de logements sociaux. C'est-à-dire que nous avons considérablement accru la part des logements parisiens qui échappent aux logiques de marché. Et aujourd'hui, donc, un logement sur cinq dans Paris est un logement social. Et si nous n'avions pas fait cet effort-là, les classes moyennes auraient été totalement exclues de Paris. Parce que les prix dans le secteur privé, à l'achat comme à la vente, sont tellement élevés qu'aujourd'hui, les classes moyennes auraient bien du mal à se loger dans ces logements-là. Donc moi, je suis très fier que nous ayons mené, pas que moi d'ailleurs, ça a été commencé très largement avant, quand Bertrand Delanoë était encore maire. Cette politique de développement du logement social est essentielle. Nous avons aujourd'hui 500 000 Parisiens qui vivent en logement social. 500 000, c'est un Parisien sur quatre. Et donc je pense que c'est une politique qui est une politique juste. Je comprends que la droite n'y soit pas favorable, mais en tout cas, moi, je suis très très attaché à cette politique-là.
Et vous avez toujours à cœur d'inaugurer ces logements sociaux à chaque fois que vous pouvez.
Oui, alors c'est parfois compliqué parce que les agendas sont serrés, mais non seulement je souhaite faire ces inaugurations, mais je souhaite que ces inaugurations se fassent quand les logements sont pleins. Parce que moi, ce que j'aime, c'est pas seulement inaugurer les murs, mais c'est rencontrer les gens et discuter avec les habitants de leurs nouvelles conditions de vie une fois qu'elles vivent en logement social. Moi, ce que j'entends quand je discute avec des familles qui ont obtenu un logement, c'est pour moi incomparable. Quand une famille me dit « maintenant, mon enfant a sa chambre et peut faire ses devoirs et c'est ça qui lui permet de réussir à l'école », il n'y a que ça que je cherche quand je fais de la politique. Parce que c'est quand même pour ça qu'on se bat. C'est pour faire en sorte que les nouvelles générations, elles aient un peu d'espoir dans leur vie.
Il y a combien d'habitants qui sont encore en attente de logement social au moment où on parle à Paris ?
Il y en a malheureusement beaucoup. Il y a 130 000 Parisiens qui aujourd'hui attendent un logement social. Mais quand on a ces chiffres en tête, on se dit qu'on a besoin de continuer à mener le combat pour le logement social et certainement pas à réduire la voilure. Et puis par ailleurs, vous avez toute une autre question qui est la question de la régulation dans le parc privé, puisque vous avez certes maintenant 21% de logements sociaux, mais vous avez une grande majorité de logements qui appartiennent au parc privé, souvent trop chers, comme je le disais à l'instant. Et je vous le dis, nous allons, dès la rentrée, remettre en place l'encadrement des loyers pour faire en sorte que les loyers soient bloqués.
Anne Hidalgo est très critiquée par l'opposition de droite pour l'arrêt d'Autolib, pour les problèmes liés à Vélib, pour la propreté. Est-ce que la majorité de gauche est en difficulté aujourd'hui ? Est-ce que La République En Marche, finalement, a une voie ouverte pour gagner les prochaines municipales ?
D'abord, il y a effectivement un certain nombre de dossiers compliqués. Vous évoquez la question d'Autolib, vous évoquez Vélib, évidemment que c'est compliqué. Moi, je me serais bien passé de ces difficultés-là, même si je ne les gère pas directement puisque je ne suis pas adjoint au transport. Cela dit, bien sûr, ce sont des difficultés. Cela dit, pendant qu'on parle d'Autolib et de Vélib et des difficultés qui leur sont liées, on ne parle pas des 5000 places en crèche que nous allons livrer d'ici 2020, des 7500 logements sociaux que nous livrons chaque année et de toutes les belles réussites de cette mandature. Vous savez, par exemple, que depuis maintenant un mois, les personnes âgées ne payent plus leur pass Navigo parce que nous avons décidé d'un pass Navigo gratuit pour leur permettre de circuler sans se ruiner dans la capitale. Donc il y a aussi des choses qui marchent très bien. La droite, évidemment, elle cherche à gagner à Paris. La République En Marche aussi. Ils cherchent à nous battre. Donc ils insistent sur les aspects qui nous mettent en difficulté, mais il y a aussi de belles réussites.
La République En Marche a des chances de remporter les municipales. On dit que certains maires d'arrondissement pourraient choisir Benjamin Griveaux.
Ce sera en tout cas un scrutin qui sera très ouvert. Et aujourd'hui, bien malin, qui peut dire qui sera le prochain maire de Paris ? Je sais ce que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est que la gauche reste majoritaire à Paris. Anne Hidalgo sera d'ailleurs sans doute candidate. Et je sais trop, parce que j'écoute les débats au Conseil de Paris, parce que j'y suis confronté aussi, ce que les Parisiens perdraient si la gauche perdait à Paris. On évoquait tout à l'heure les logements sociaux. La République En Marche propose de les vendre, c'est-à-dire de les livrer à la spéculation immobilière, ce qui rendrait les temps d'attente pour avoir un logement social encore plus long. Ben, vous avez un exemple concret d'une divergence de fond qui sera débattue lors de la prochaine campagne municipale.
Dernière question, Yann Brossa, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a vu sa détention administrative prolongée de 3 mois par Israël. Il est en détention depuis 10 mois sans qu'aucune charge ne pèse sur lui. Le président Macron refuse toujours de recevoir son épouse. Il ne s'est pas encore exprimé publiquement sur ce cas. Quelle est votre réaction à son maintien en détention ?
Je sais que le président Macron a fait un certain nombre de démarches pour obtenir sa libération. Moi, en tout cas, je sais une chose, je connais bien Salah Hamouri. Je lui avais d'ailleurs rendu visite lors de sa première détention, puisque c'est la deuxième fois que les Israéliens l'emprisonnent sans aucune espèce de raison valable. En tout cas, il y a quand même une chose qu'on ne dit pas assez. On dit beaucoup que l'État d'Israël est la seule démocratie du Proche-Orient. Voilà quand même un drôle de pays où on peut procéder à une détention administrative sans rendre publique aucune espèce de charge contre la personne concernée. Donc je pense bien fort à Salah Hamouri, pas seulement à lui, à sa mère Denise, à sa femme Elsa Lefort, qui attendent depuis maintenant longtemps sa libération. Et on a affaire là à un véritable scandale, et je pense que la France gagnerait à parler plus fort sur ce sujet.
L'invité de Pluriel était Yann Brossa. Je vous remercie. Je rappelle que
Merci
vous êtes adjoint
à
la maire de Paris en charge du logement et chef de file du Parti communiste aux élections européennes. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.